de souche. Je suis né aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis, par contre de souche canadienne. Mes parents étaient de l'Ontario, alors j'étais le petit Américain dans la famille en grandissant aux États-Unis. Le Seigneur nous avait emmenés au Québec en tant que missionnaire en 1997. Je ne sais pas si... Oui, c'est ça, on va... Mais c'est pas ça maintenant. Il a pris en arrière. Oui, c'est ça. Ah, les voici. Nous sommes à un de nos endroits préférés, Chocolat Favori. Pour ceux qui connaissent pas, qui connaissent ça dans la région de Québec, je ne sais pas si vous avez au lac. Oui? Oh bon, mais je vais revenir plus souvent. Alors... Alors, on est missionnaire au Québec, comme j'ai dit, depuis 1997, et on a eu la grande joie de faire beaucoup de différents ministères pendant nos années ici. Alors, je pense que ce sera bien de vous donner un peu un résumé de qui nous sommes pour que vous pouvez nous mettre en contexte avant qu'on arrive à parler de la parole de Dieu. Alors, en premier, est-ce que c'est moi qui l'a... Hein? Boom. OK. Alors, on a eu 5 garçons et une fille. On a finalement trouvé la recette pour avoir une fille à la fin. Alors, c'est notre 6e, la petite fille. Et je vais juste vous dire qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Notre fils, Nathaniel, s'est marié avec une fille de Sherbrooke, Marianne Arsenault. Et il est un pasteur de jeunesse dans l'État de Floride en ce moment. Alors, si vous cherchez un endroit pour aller pendant l'hiver, mais peut-être vous pouvez aller le visiter en Floride. Prochainement, notre fils Caleb s'est marié avec Virginie Barrès de Baie-Comeau. Son père est le pasteur de l'Église Baptiste à Baie-Comeau. Et où ils sont en train de se préparer pour devenir missionnaires avec JET, avec notre organisme, pour aller en Slovénie. Alors, du voulant, ils vont déménager en Slovénie l'année prochaine pour être missionnaires. Ils ont un petit-fils, Abraham. Prochainement, notre... fils Andrew s'est marié avec Noémie Rivera de la région de Québec. J'ai eu la joie d'emmener Noémie au Seigneur lorsqu'elle avait 17 ans. Alors, je suis son père spirituel et son beau-père. Alors, c'est vraiment excitant. Vous avez peut-être entendu parler de quelque chose que leur famille a vécu dans la dernière une et demie. C'était pas mal parlé à travers la province de Québec. Leur 4e enfant, Jared, que je ne sais pas s'il y a un pointer ici, mais c'est Noémie qui l'a dans ses bras. La photo est petite, mais Jared, à l'âge de 2 mois et demi, Noémie l'a trouvé mort, bleuâtre, sans pouls, sans respiration. Et on vient d'arriver la veille dans la ville en Virginie, là où il étudiait, mon fils étudiait. Et on l'a amené à l'hôpital. Ils nous ont dit que le bébé ne survivra pas. Il est toujours en vie. Alors, merci Seigneur pour ça. Mais il est dans une situation très compliquée, comme tout. Il est aveugle, il est sourd, il croit. Comme vous pouvez peut-être voir dans la photo, il est quand même costaud maintenant. Il mange à travers un tuyau. Andrew et Noémie avaient planifié partir le dimanche suivant pour visiter 3 pays en vue de devenir missionnaire. Leur valise était paquetée. Ils l'ont trouvé mardi matin. Ils avaient leur billet d'avion pour partir en Europe le dimanche après. Alors, on peut pas nier le fait que le Seigneur, il connaît le temps dans tout ça. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Andrew et Noémie ont mis comme le 31 août hier, comme leur date limite de décider s'ils vont continuer d'essayer d'aller outre-mer comme missionnaire ou s'ils vont chercher un endroit où ils peuvent devenir un pasteur au Canada ou aux États-Unis. Ils aimeront être prêts à un hôpital pour enfants. On ne sait pas pendant combien de temps Jared va rester dans vie. Les médecins nous ont dit, après, il n'est pas décidé le lendemain, ils nous ont dit en une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Maintenant, ça fait 1 an et demi. Là, on dit jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur va faire. Évidemment, nous prions que le Seigneur va le guérir. On n'a pas de doute que le Seigneur est capable de le guérir, mais nous savons que le Seigneur, que son plan est plus sage que le nôtre. Alors, si vous pouvez prier pour eux, ils cherchent vraiment la direction de Dieu. Ils vous aident dans le ministère à temps plein, mais ils vous aident là où le Seigneur voudrait les mettre. notre fils Jamin. Comme vous voyez, Jamin n'a pas de fille québécoise dans sa photo. Alors, si vous connaissez une fille qui aimera être missionnaire en Irlande, vous pouvez venir parler avec ma femme après. Alors, Jamin planifie de partir en mission en Irlande l'année prochaine. C'est son plan. Il a déjà fini une maîtrise dans les études théologiques. Prochainement, notre fils Isaiah s'est marié avec Bridget Funkhauser de Saint-Jean-sur-Richelieu et ils ont un an à faire encore dans leurs études théologiques pour avoir une maîtrise en théologie et ils voudraient partir aussi en tant que missionnaire. Alors, ils sont un peu à la recherche peut-être en Mongolie. Alors, si vous pouvez prier pour eux par rapport à l'endroit où le Seigneur les dirige. Et finalement, notre fille Hannah qui a un an à faire encore pour terminer sa maîtrise en théologie aussi. Elle voudrait être missionnaire et comme vous voyez, Hannah n'a pas de gars. Alors, si vous connaissez un gars qui veut être missionnaire, viens me voir après. OK, alors, OK, prochaine diapositive. Alors, depuis notre arrivée au Québec, on travaille avec le ministre de jeunesse. J'ai été pasteur de jeunesse pendant 10 ans aux États-Unis. Et lorsque le Seigneur nous avait dirigés ici, on a pris un an pour apprendre le français, plus ou moins. Et on a commencé notre ministère. Alors, depuis ce moment-là, on aide les églises. Pendant 20 ans, on aide une église à la fois, surtout dans la région de Québec. Alors, on est allé dans une église, on formait des leaders dans le groupe de jeunes, on donnait des matériaux, on évangélisait les jeunes, on faisait de la discipulat auprès des jeunes. En 2020, après on a fini avec notre quatrième église, on s'est dit, mais 2020 sera une merveilleuse année à commencer quelque chose de nouvel. Whoops! Alors, mais on avait l'idée de commencer d'élargir nos horizons et offrir notre aide à toutes les églises québécoises qu'on peut trouver, qu'on peut donner des matériaux. On s'est dit, on ne sait pas quand tu deviens expert dans quelque chose, mais après de l'avoir fait 35 ans, on doit commencer des proches à être expert. Alors maintenant, on aide plusieurs églises à faire leur ministère de jeunesse en les donnant des matériaux d'enseignement. Par exemple, l'église Baptiste Baie-Comeau s'assoit et feront leur groupe de jeunes. Leur étude qu'ils vont faire, c'est l'étude que moi j'ai écrite. Toutes leurs études bibliques. On les donne à plusieurs églises un peu partout, à Montréal, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Alors, il y a beaucoup d'églises qui les utilisent et on les donne gratuitement. Pour nous, on veut juste faire croître l'Église de Jésus-Christ. Alors, toutes ces informations, vous pouvez trouver sur mon site web, jeffstreet.ca, où il y a des vidéos aussi par rapport à la ministre de jeunesse sur YouTube, sur mon page YouTube, Dr. Jeff Street, vous pouvez le tout trouver là. Et tout ça est gratuit pour les églises québécoises. Alors, après avoir élevé 6 enfants, on s'est dit, mais peut-être nos expériences en tant que parents pouvaient être utiles aux parents un peu plus jeunes. Alors, on a commencé un programme qu'on appelle Projet 67. Le nom est tiré de Deutéronome 6:6-7, vous vous rappelez peut-être de ces versets-là où Dieu a dit à Moïse, c'est-à-dire aux grands-parents et aux parents juifs, vous devez enseigner vos enfants mes préceptes, ma parole quand, lorsque vous vous levez, en faisant la route, en restant à la maison et en se couchant. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question d'ouvrir la Bible et lire la Bible à tes enfants. Oh, mais j'ai éduqué mes enfants dans la Bible. Non, 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 c'est beaucoup plus que ça. La Bible, La parole de Dieu doit faire partie de toute notre vie. Lorsqu'on amène l'enfant à l'école, lorsqu'on est en train de regarder le match d'hockey, lorsqu'on est en train de regarder la télévision, en mangeant à McDo, en restant à la maison, en faisant rien, que la parole de Dieu sort de notre bouche, que ça fait partie de qui nous sommes pour que ça impacte des personnes. Alors, impacte nos enfants. Alors, on a commencé le projet 67. On fait des conférences. J'ai une trentaine de vidéos sur l'éducation des enfants sur YouTube. Ils sont toutes très courtes, 3 minutes. Peut-être vous vous disiez pourquoi 3 minutes? Parce que les gens vont écouter les vidéos de 3 minutes. Vidéo de 30 minutes, laisse faire, personne ne va l'écouter. Alors, on a une trentaine de vidéos de 3 minutes en ce moment sur YouTube avec le but de rajouter à peu près 40 vidéos de plus. Alors, c'est ça. Et si jamais vous êtes intéressé à une conférence de parentage, etc., on est intéressé à venir vous encourager dans ça si jamais ça marche. Et aussi la mission JET. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la mission JET. Dans l'an 2000, lorsqu'on était à Québec, dans la première église où on a servi, on a organisé un voyage missionnaire, mais j'avais reculé. En 1999, On a organisé un voyage missionnaire avec notre groupe de jeunes. On a amené nos jeunes à cette île pour aider sur les réserves montagnières. De ma connaissance, on était le tout premier groupe de Québécois d'aller à cette île aider sur les réserves. Et après ce voyage, on a organisé un voyage avec notre groupe de jeunes, un voyage missionnaire. On faisait des activités de service local. Et les jeunes qui participaient dans les activités de service local étaient invités à participer avec nous dans le voyage missionnaire outre-mer. Alors, en l'an 2000, on est allé en République tchèque et en France. J'ai voulu aller en France parce que nous sommes francophones. J'ai voulu aller en République tchèque parce que ce n'est pas anglais, ce n'est pas français. J'ai voulu que nos jeunes Québécois va voir que Dieu travaille dans les autres endroits qui n'ont aucun rapport avec notre vie canadienne. Alors, le voyage était une grande réussite. Dieu a travaillé grandement là-bas, à travers de notre équipe, mais il a aussi travaillé grandement dans la vie des membres de notre équipe. En revenant du voyage, tous les jeunes qui ont participé de notre église ont été baptisés, sauf un. Et lorsque tous les jeunes ont demandé de baptiser, à ce moment, la direction de l'église a fait « Wow, qu'est-ce qui est arrivé? » Et moi aussi, ma femme et moi, on a fait « Wow, qu'est-ce qui est arrivé? » Alors, on a commencé à prier et on s'est dit « Quelqu'un doit commencer un organisme pour donner des jeunes de partout le Québec une opportunité à participer à la mission. » Ce n'est pas toutes les églises qui ont été missionnaires comme leaders de jeunesse, des personnes qui sont expérimentées à voyager en Europe comme nous sommes. Alors, on doit offrir ça aux églises québécoises. Mais on s'est dit, mais ce n'est pas nous, on ne peut pas faire ça, on est trop occupé. On a 6 enfants, ma femme fait école à la maison, on fait le groupe de jeunes, on est déjà missionnaire. Pas nous, mais quelqu'un d'autre. Alors on a commencé à prier, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Tu sais comment ça marche lorsque tu pries comme ça? Alors on a commencé à prier comme ça et le Seigneur nous a dit, vous allez le faire. Alors dans l'an 2002, on a incorporé la mission JET jusqu'aux extrémités de la terre dans le but de mobiliser les Québécois vers la mission. Laisse-moi souligner, on ne peut pas appeler quelqu'un à la mission. Je ne veux pas appeler quelqu'un à la mission. Si j'appelle quelqu'un à la mission, ça va être une faillite. Mais si Dieu appelle quelqu'un, je veux l'aider de réaliser ce que Dieu l'a appelé à faire. Alors, on a commencé JET dans ce bout-là, et je vais vous dire toutes les choses que le Seigneur a fait depuis ce moment-là. En premier, on a commencé avec des voyages missionnaires à court terme. Un voyage à court terme, c'est normalement 10 à 30 jours. Lorsque je dis 10 jours, c'est un voyage d'adultes. Comme cet hiver, on est allé en Israël pendant la guerre avec un petit groupe d'adultes pour évangéliser les Juifs. Ça, c'était un voyage de 10 jours. Si c'est les jeunes, c'est toujours 4 semaines minimum ou quelques jours de plus. Alors, on s'en va dans les différents endroits. Vous pouvez voir les points rouges. C'est les places où on a mis le pied avec nos équipes JET au fil des 20 dernières années. Et j'ai pensé que vous allez aimer voir une photo de notre tout premier voyage missionnaire au Brésil. On était dans la jungle. On aidait un missionnaire qui traduisait la Bible dans la langue indienne. Alors, c'est moi avec le chef et son frère. Moi, je suis la personne au milieu. Et on a aidé des missionnaires pendant un mois là-bas avec beaucoup de travaux pratiques jusqu'au point que le missionnaire nous a dit « Les travaux pratiques que j'avais besoin de faire, que vous avez fait à ma place, va faire en sorte que je vais finir la traduction de la Bible un an plus tôt. » Alors, est-ce que quelques jeunes peuvent vraiment faire un impact? Oui, quelques jeunes peuvent vraiment faire un impact. On a avancé un an la traduction de la Bible dans la langue de ces deux hommes-là. Alors, c'était vraiment excellent comme projet. Cet été, on est allé à Malte. On arrive de Malte, en fait. On est arrivé le 23 juillet de Malte. On a amené ce beau groupe de 16 jeunes et 2 jeunes adultes leaders. C'est peut-être difficile pour vous à décider qui est les jeunes adultes leaders, mais c'est vrai, ils ressemblent un peu aux jeunes. Ils ont 23 et 21 ans. Joshua, ici, et Justin, ici, étaient 2 leaders qui nous aidaient avec le groupe de jeunes. Et c'était des jeunes de 14 différentes églises au Québec. Alors, c'était vraiment un groupe répandu que le Seigneur a soudé ensemble pour travailler à Malte. On est allé aider l'implantation des églises sur l'île de Malte. Vous vous rappelez de l'île de Malte, l'apôtre Paul est y allé. Il a fait naufrage en y arrivant dans l'Acte chapitre 28. Heureusement, notre arrivée n'était pas autant excitante. Alors, on est juste arrivé sain et sauf et on a aidé pendant un mois. Alors, j'ai une courte vidéo qu'on va vous mettre, 4 minutes. Ça va vous donner un peu le goût de ce qu'on avait fait cet été. Très travers de notre groupe et pendant ce voyage. On est vraiment reconnaissante. Dans les prochaines semaines, il y aura des autres vidéos de tous les jeunes du voyage qui donnent un témoignage, des courts témoignages sur les différents sujets, de qu'est-ce qu'ils ont appris, comment on a dû travailler, etc. Je suis en train de juste finir ces vidéos. Ils seront toutes sur Internet aussi dans les prochaines semaines. OK, alors l'année prochaine, on s'en va en Grèce. Le voyage est déjà organisé. Les inscriptions vont commencer dans 2 semaines. Alors, on va prendre un groupe de jeunes, on va aider en Grèce, sur l'île de Crète, qui est la plus grande île grecque et l'île la plus au sud. Et il y a un grand besoin de l'Évangile là. Pour vous donner une idée, il y a 600 000 personnes qui habitent sur l'île de Crète. Il y a 1 000 chrétiens connus sur 600 000. L'île de Malte, où on était cette année, le pays l'île de Malte est la même grandeur que l'île de Montréal. Et ça, c'est le pays au complet. Et il y a à peu près 400 000 personnes là-bas et après 1 000 chrétiens. Alors, on essaie toujours dans nos voyages d'aller dans les endroits moins évangélisés que le Québec. Alors, notre but est de trouver des... C'est difficile pour moi de prendre un groupe de Québécois et partir en Haïti, où il y a 35% de la population qui se dit chrétien, lorsqu'on est 3% ici. Alors, on essaie toujours à viser des endroits, les pays les plus en besoin au monde et les pays stables où on peut amener des jeunes en sécurité, évidemment. Alors, voyage en Crète, si vous êtes intéressé et si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, merci de me parler. On a la forte impression qu'une fois que les inscriptions vont commencer dans 2 semaines, le 17 septembre, que le voyage va remplir dans à peu près 1 semaine. L'année passée, le voyage a rempli au complet dans 1 semaine. Alors, si vous êtes intéressé, vous connaissez des personnes intéressées, merci de nous parler. OK, alors maintenant on parle de la mission à moyen terme. On a, comme j'ai dit, la mission de 30 jours. Nous aimerions faire un programme qu'on appellera le chalet Saint-Patrick. Cet bâtiment que vous voyez là, ce n'est pas une vraie place, là, c'est juste une photo que mon architecte m'a donnée. Mais nous voudrions construire un centre dans la région de Québec qu'on appellera le chalet Saint-Patrick. Alors peut-être vous allez dire, mais pourquoi Saint-Patrick? Ça a l'air catholique, c'est quoi cette affaire-là? Non, c'est parce que le Saint-Patrick était un missionnaire. Le Saint-Patrick est allé dans un endroit quand même un champ missionnaire important, comme chez nous, le Québec. Et à suite à tout son ministère et son travail, Dieu a fait en sorte que la terre d'Irlande, qui était une terre missionnaire, est devenue une terre d'envoi. Et c'est notre prière que le Québec va devenir une terre d'envoi, une place qui est reconnue comme un champ missionnaire, qu'on va aussi devenir une terre d'envoi, où on envoie des jeunes et des adultes en mission à temps plein. Alors le programme, il y a beaucoup d'informations, c'est un document de 14 pages. Alors si tu souffres de l'insomnie, vous pouvez prendre le document et l'amener chez vous. Mais il y a un document de 14 pages qui explique tout ce que nous voulons faire avec le chalet. À date, on était déjà donné jusqu'à un peu plus qu'un million de dollars vers le projet. Avant COVID, on croyait que ça prendrait 1 million. Depuis COVID, tout a monté en prix. Notre architecte nous avait dit un peu plus que 2 millions probablement à tout faire. On a trouvé un terrain au lac Beauport, là où nous habitons, dans la région de Québec. Cette semaine, j'ai fait rendez-vous avec la ville pour voir si on peut rezoner le terrain. C'est 40 acres qui regardent sur lac et montagne. Alors, ce sera une merveilleuse place de venir étudier le parole de Dieu. Et alors, merci de prier pour cette rencontre avec la ville de lac Beauport. Et aussi, prier pour l'autre million qu'on a besoin. Le Seigneur a pourvu ça miraculeusement et on l'attend de le pourvoir selon son bon temps pour ce programme-là. Et la mission à le long terme. Je vous avais déjà parlé que notre fils Jamin devient missionnaire avec Jet en Irlande, Caleb en Slovénie. On a ces deux couples-là qui sont déjà missionnaires. Julie Paquette, qui est membre. Tous les trois sont membres de l'Église Chauveau à Québec. Et on les avait formés dans le ministère de jeunesse. Et après, le Seigneur les avait appelés des missionnaires. Tous les trois se sont approchés à nous en nous demandant « Comment est-ce que je peux devenir missionnaire avec Jet? Est-ce que vous pouvez nous envoyer en tant que missionnaire? » Alors, on s'est dit « Mais par la grâce de Dieu, on le fera. » Alors, Philippe et Isabelle Bélanger sont en Slovaquie depuis l'an 2015 et ils travaillent avec une église slovaque pour installer un ministère jeunesse. L'église n'a pas de pasteur en ce moment aussi. Alors, Philippe prêche deux fois par mois aussi pour les adultes. Alors, c'est vraiment excitant les choses qui se passent. Ils sont en train de former un joueur de soccer professionnel retraité qui a accepté le Seigneur il y a 5 ans. Et il est vraiment excité par rapport au Seigneur. Il vous serve dans l'église. Alors, il le forme maintenant dans le ministère de jeunesse pour travailler dans cette église. Julie Paquette est aussi de l'église Chauveau et elle est au Japon depuis 2016. Elle fait partie d'une implantation d'une église japonaise par une famille japonaise. Et j'avais vous demandé à prier pour ça. La femme du pasteur, elle a 70 ans. Non, 70. Oui, elle a j'étais un peu étonné parce qu'elle a l'air jeune, mais elle a été diagnostiquée avec cancer de pancréas. Dans les dernières 2 semaines, il le donne maximum 6 mois à vivre. Alors, ça va bouleverser cette petite église. Notre groupe JET est allé au Japon en 2023. À notre arrivée, l'église était après 6 personnes à tous les dimanches. Suite à notre travail là-bas, l'église a monté jusqu'à 18. Alors, on remercie le Seigneur pour ça, mais le pasteur va accepter si le Seigneur fait un miracle, il va perdre sa femme dans les prochains 6 mois. Alors, Julie, j'ai dit à Julie, je pense que tu vas remplacer beaucoup des travaux que la femme de pasteur faisait aussi. On va juste te rajouter tous ces travaux aussi. Elle fait déjà le ministère de jeunesse, le ministère d'enfants, elle enseigne des cours d'anglais. Tous les Japonais voudraient apprendre anglais. C'est une bonne moyenne pour les évangéliser. Alors, merci de prier pour Julie. Si vous êtes intéressé à recevoir tous les deux ou un des deux leur lettre nouvelle, mais merci de nous faire signe, on va vous rajouter à leur liste d'envoi. OK, on arrive à notre passage biblique. Alors, comme on avait vu tantôt dans l'acte en 8, mais c'était sur l'écran, mais je ne l'avais pas lu, c'est marqué que l'Esprit Saint survenant sur vous et vous allez être mes témoins. L'Esprit Saint est donné pour que nous pouvons être les témoins. Tout le monde, je pense, qui a étudié la Bible un peu est connaissant de ça. Mais j'aimerais reculer un peu. Ça, c'était les choses qui sont arrivées dans l'Acte chapitre 1. Si on recule pendant le ministère de Jésus, ça, c'est Jean 7, 37 à 39. Je vais juste tasser ça pour que je ne tomberai pas. OK. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors, la première chose que nous devons comprendre est qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici lorsqu'il a dit « si quelqu'un a soif ». On peut penser que « Oh, mais il y a des gens qui n'ont pas de soif. » En fait, tout le monde a soif. Jésus est en train de dire ici, « Si vous êtes connaissante que tu as soif. » Parce que notre monde est rempli de personnes qui ne sont même pas courantes qu'ils ont soif. Regarde vos voisins. Regarde les certains problèmes, certains membres de ta famille plus élargés qui essaient de remplir, d'atteindre leur soif en faisant toutes sortes d'activités dans le but d'atteindre cette soif, mais ça ne marche pas. Si ce soit l'immoralité, ou la boisson, ou les sports, ou l'escalade, ou plein d'autres divertissements. Les gens autour de nous ont soif. C'est important qu'on le reconnaisse pour qu'on puisse voir vraiment leurs besoins. Et pour eux, reconnaître qu'on a soif est la base, c'est le début. Aussitôt que quelqu'un va reconnaître qu'il a soif, là, il est prêt à vraiment chercher quelque chose qui va atteindre cette soif-là. Jésus a dit, celui qui croit en moi, n'importe qui, celui qui croit, n'importe qui vous êtes, jeune, vieux, riche, pauvre, n'importe qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de lui. OK, donc c'est lui qui est la source d'eau. Et l'idée est que son esprit déborde sur nous. C'est lui, l'eau vive, j'ai écrit ici, qui apporte la vie à tous ceux qui le reçoivent. Alors, j'ai une petite démonstration ici pour vous. Je vais tasser ça en voyant que je n'ai pas besoin de mon ordinateur. Et ça, c'est toi. Et moi. Ça, c'est Jésus. Et l'idée est que son esprit va nous remplir jusqu'au point qu'on a tellement de son esprit qu'on déborde. Qu'on déborde sur tout le monde qui est autour de nous, parce que c'est lui qui est la source d'eau, qui va nous donner tout ce qu'il faut pour arroser tout le monde autour de nous. Alors peut-être tu vas dire, c'est cool ton illustration, Jeff. C'est fun, j'ai jamais vu ça. Mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que quelqu'un est rempli l'esprit? Alors, ça, c'est la prochaine question. Quelqu'un remplit l'esprit à l'heure de quoi? Parce que c'est bel et bien à dire à les chrétiens entre nous, il faut remplir l'esprit. OK, oui, on est d'accord. Mais comment? Ça a l'air de quoi dans la vie de quelqu'un? Alors, on va regarder trois passages bibliques. Le premier est Actes 4:13. Et pour vous mettre en contexte, Pierre et Jean viennent de guérir un handicapé. Et c'est ça qui arrive. Pierre et Jean parlaient encore au peuple, conservèrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et des Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui a porté le nombre des hommes à 5 000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec les grands prêtres Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient dans la famille de la grande prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent, « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que vous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels vous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes de peuple sans instruction et qu'ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. OK, laisse-nous penser pour une minute par rapport à ce passage et par rapport à l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez comment Pierre était lorsque Jésus était avec lui pendant les 3 ans que Jésus faisait son ministère? Pierre était quelqu'un assez courageux. Il n'était pas timide. Il était vite à la parole. Moi, je suis de l'impression que des fois, on est dur sur Pierre parce que Pierre disait à haute voix tout ce que les autres pensaient tous à tout bas. C'est juste lui avait le courage de le dire. Lorsqu'ils sont venus pour prendre Jésus à le jardin de Gethsémané, vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé? Pierre s'est avancé pour protéger Jésus. Il a sorti son épée, il a essayé tous les gars, on voit qu'il n'était pas trop bon à ça. Il a quasiment manqué au complet, il a juste enlevé son oreille. Alors Jésus prend son oreille, il le remet et dit, Pierre, vraiment là? À ce moment, boum, il part. Tout le monde part, Pierre avec. Alors, il prend Jésus, l'amène dans la ville de Jérusalem pour commencer les processus judiciaires, pas vraiment légal, mais il commence les processus judiciaires. Pierre est curieux, mais il a peur maintenant. Alors, il regarde de loin, il suit de loin, il essaie d'entrer, mais lui, il ne connaissait pas les bonnes personnes. Jean rentre, par exemple. Ça nous donne l'impression que Jean était lié à quelque part avec la famille du souverain sacrificateur. Mais Pierre, non, Pierre était juste un pêcheur de la région de Galilée. Il n'y avait pas de contact important. Alors, Pierre était à l'extérieur, il chauffait des mains. Il y avait une petite fille là qui dit, « Mais toi, là, je reconnais ton accent. Tu viens de Lac-Saint-Jean. Non, tu viens de Galilée. Tu viens de Galilée, je reconnais ton accent. » Et il dit, « Non, c'est pas moi. » Il dit, « Mais tu étais avec Jésus. » Il dit, « Jésus. Le nom ne me dit rien. » Pierre, qui était courageux, à côté de Jésus, est devenu chicken lorsqu'il était éloigné de Jésus. Maintenant, on avance à le passage qu'on vient de lire 7 semaines plus tard. C'est pas 3 ans plus tard, 10 ans plus tard. C'est moins que 2 mois. Moins que 2 mois après, l'Esprit Saint est devenu, Actes chapitre 2, Pierre a pris la parole, il prêche à tout le monde, beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur, et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont guéri un infirme, ils l'amènent devant qui? Les mêmes gars qui ont crucifié Jésus. Cette liste qu'on vient de lire, Jean, Alexandre, Caïphe, c'est le même gars. Vous pouvez aller lire dans les évangiles, c'est le même gars. Avant, Pierre avait gros peur de ces hommes-là. Mais Pierre est une différente personne maintenant. Parce que le courage qu'il avait à côté de Jésus, c'est revenu parce qu'il avait l'Esprit de Jésus en dedans de lui. Il était rempli l'Esprit. C'est marqué, rempli l'Esprit. Pierre a dit ça. J'ai mis ici, Pierre a témoigné avec courage face aux hommes de lesquels il s'est sauvé il y a 7 semaines. Quelqu'un rempli de l'Esprit a un courage non naturel. Cet courage n'était pas naturel à Pierre. Mais avec l'Esprit Saint en dedans de lui, c'est devenu naturel. Quelqu'un rempli de l'Esprit a un courage non naturel. OK, Actes 7, 54, 8, 1. Pour vous mettre en contexte ici, l'Église, ça va bien. L'Église est en train de croître. Il y a beaucoup de madame même, un peu comme votre soupe populaire de la semaine prochaine, où nourrissait des gens. Et ils avaient nommé des diacres pour aider avec ça, et Étienne, un des diacres, juste pour le fun, dans son temps surplus, il chicanait avec des Juifs par rapport au personnage de Jésus, que Jésus est vraiment le Messie. Alors, il était évidemment très bon à ça, parce qu'ils ont décidé de le tuer, parce qu'ils n'étaient pas capables de battre logiquement ou théologiquement. Alors, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un et la personne a raison, on juste va les tasser. Les choses n'ont pas changé. C'est toujours comme ça. Alors, dans le 7:54, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors les grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de la Judée et de la Samarie. Alors, Étienne est en train d'être tué. Je ne sais pas quelle persécution que vous avez vécue pour le Seigneur jusque-là dans vos vies. J'ai un ami missionnaire en Europe de l'Est qui m'a raconté qu'il était en train de prêcher dans la rue avec tellement de personnes qui ont craché sur son visage qu'il était capable de l'enlever comme la crème fouettée de son visage. Il a mon âge. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, mais une chose certaine, personne parmi nous a été mis à mort pour le Seigneur. En tout cas, pas encore. Parce qu'on est tous en vie. On est tous là. Alors, moi, je n'étais jamais mis à la mort pour le Seigneur, pas encore, et vous non plus. Mais Étienne est en train d'être mis à la mort ici. Et qu'est-ce qu'il peut dire? Seigneur, pardonnez-le. Ça me rappelle de quelqu'un. Jésus, exactement. Jésus sur la croix, pardonnez ceux qui l'ont tué. Quelqu'un rempli de l'Esprit, pardonne d'une façon non naturelle. Il va pardonner les autres. Parce que, sais-tu quoi, ce n'est pas naturel de pardonner ceux qui sont en train de tuer. Ce n'est pas dans ma nature, lorsque quelqu'un est en train de me tuer, de dire, je te pardonne. Ce n'est pas dans la nature. Mais quelqu'un rempli de l'esprit va pardonner d'une façon non naturelle. OK, troisième passage, Actes 16, 19 à 34. Ce passage est un peu plus long. Et la chose qui est arrivée ici, pour mettre en contexte, Paul et Silas sont en Europe à Philippe et ils avaient une fille qui traînait après eux pendant plusieurs jours en criant un peu comme ça, « Ces âmes sont serviteurs de Dieu très haut qui vous annoncent la façon d'être sauvés. » Et finalement, Paul s'est fatigué de ça. Alors, il a enlevé le démon d'elle. Et les gens qui profitaient de cette fille n'étaient pas trop contents. On prend le passage là. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître leur espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant, « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qui ne sont pas permis d'accepter ni suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte au coup de fouet. Après les avoir roués des coups, ils les ont jetés en prison en recommandant au gardien de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et les a emprisonnés leurs pieds dans les entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Des prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À 7 heures de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alors, si vous êtes en train de regarder proche, tu as dit, « Jeff, c'était pas marqué. » Remplis l'esprit dans ton passage. T'as raison, c'était pas marqué. Mais la seule explication que je peux vous donner de pourquoi les gens qui étaient battus avec des coups de fouet, mis en entrave, au fond de la prison, chantaient parce qu'ils étaient remplis l'esprit. Il n'y a pas d'autre explication. Je ne crois pas que dans les petites lettres de leur contrat apôtre, c'était marqué en bas, si jamais vous êtes mis en prison, vers minuit, il faut commencer le chorale. Non, c'est parce qu'ils étaient remplis l'esprit. L'esprit sortait du naturellement. Ils débordaient. C'est ça que Jésus parlait. Qu'ils étaient tellement remplis l'esprit que lorsqu'on les poussait, ça débordait. Vous étiez déjà chez quelqu'un et tu donnes un verre qui est trop plein. Et tu essaies de retourner à ta place sans le faire mouiller le plancher. C'est l'image qu'on est supposé d'être en tant que chrétien. Qu'on est tellement plein de l'esprit que les gens autour de nous sont mouillés automatiquement en nous touchant. Qu'on les mouille avec l'esprit. C'est intéressant, j'ai pris beaucoup, beaucoup de cours de théologie dans ma vie. Je n'ai jamais entendu dans mes cours sur l'Esprit Saint que l'Esprit Saint est donné pour moi à verser sur les autres. Personne ne m'a jamais dit ça. Mais c'est ça qui est marqué dans Jean. Il va couler en dedans de vous. Il va couler sur les autres. Alors, on arrive à la question. Comment est-ce que quelqu'un est rempli de l'esprit? On va arriver dans un instant. J'aimerais en premier souligner que dans tous les récits qu'on vient de lire, les gens étaient en train d'essayer d'avancer le royaume de Dieu. Ils faisaient un effort à rejoindre des gens avec l'Évangile. Donc, sont quoi nos options? On peut vivre une vie pour Jésus à 100% en lui faisant confiance, ou on peut vivre une vie plate, chrétienne. Sont tes choix. Il n'y a pas vraiment un autre choix. Si tu veux une vie excitante, il faut t'engager à faire sa volonté, peu importe. J'ai écrit ici, c'est l'intention de Dieu que Jésus rejoigne des personnes à travers de nous. L'Esprit Saint, j'ai mis 3 points ici, l'Esprit Saint est donné pour ton bénéfice, mais aussi le bénéfice des autres. Souvent, dans nos cours de théologie, on parle de toutes les choses que l'Esprit Saint fait pour nous. C'est tout vrai. Mais l'Esprit Saint est donné à moi pour que je puisse le donner aux autres. Je peux le verser sur les autres. C'est par le moyen de l'Esprit dans ta vie que Jésus travaillera. Lorsque je vois comment le Seigneur nous utilise, nous, je sais que c'est Dieu parce que je me connais. Ce n'est pas moi. Je suis juste Joe normal. Le fait d'une vie remplie de l'Esprit est étonnant. Prochain verset biblique, Éphésiens 5, 18, vous avez certainement lu ce verset. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est intéressant la juxtaposition de la boisson avec le remplissage de l'esprit. En 2013, on était avec notre groupe JET dans le pays de la Slovaquie. Et dans nos voyages JET, on fait une journée de tourisme par semaine. Pour nous, si on va pendant un mois, les jeunes ont besoin d'une journée de congé par semaine. Et si on est là-bas, on va aller voir quelque chose. Il n'y a pas grand-chose intéressant à voir dans le pays de Slovaquie. Bon, alors on est allé dans la ville de Bratislava. Pas une ville super intéressante, mais bon, c'est la ville capitale. Alors on est allé là, à Dombos. C'était 45 minutes de bus public. On était comme l'avant-dernier arrêt sur la ligne publique. Alors, en revenant après notre journée de tourisme, j'ai remarqué deux jeunes hommes, début vingtaine, et deux jeunes femmes. Et je me suis dit, oh, mais peut-être ils habitent proche à chez nous, parce que lorsqu'on quittait Bratislava, le bus était plein, mais en allant 45 minutes, c'est devenu de plus en plus vide. Alors, je me suis dit, oh, mais peut-être je peux les inviter au camp, on peut partager l'évangile avec eux. Alors, j'ai dit au gars, à peu près une minute et demie, deux minutes avant notre arrêt, j'ai dit, est-ce que vous habitez ici dans le coin? Et il dit, non, j'habite à Bratislava. J'ai dit, ah, OK. Il dit, moi et mon ami vont aller dans le bois avec ses deux filles, s'asseoir et se saouler. J'ai dit, qu'est-ce que je peux les dire dans une minute et demie? Alors, j'ai prié et le Seigneur m'a donné ça. J'ai dit, tu sais le sentiment que tu as lorsque tu es sous et tout va bien, il n'y a pas de problème, tout est merveilleux, tu as la joie intérieure. Il dit, ouais. J'ai dit, moi j'ai ça tout le temps. Et il m'a regardé. J'ai dit, j'ai repenti de mes péchés et j'ai demandé Jésus-Christ de me sauver. Il est entré dans ma vie, il m'a rempli avec son Esprit Saint et ça que toi tu cherches dans la bouteille, moi j'ai ça tout le temps. Et il m'a regardé, il a dit, c'était l'idée de mon ami. Ça, c'est littéralement jeter ton ami sur le bus. Okay? Pourquoi est-ce que Paul nous interdit de s'enivrer? Mais en premier, parce que ça mène à la débauche. Mais aussi parce qu'on n'a pas besoin de ça. La boisson, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui doivent s'enivrer, qui doivent chercher un feeling, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi ces deux concepts sont juxtaposés. Au lieu de chercher quelque chose de fake, de cheap, de temporaire dans la bouteille, soit rempli de l'esprit. C'est permanent. C'est quelque chose continuel qui nous donne la vraie joie et la vraie vie. OK, là, on arrive à une autre question. Oh, non, je vais reculer encore. On arrive à une autre question. Comment est-ce qu'on peut boire de Jésus? OK, peut-être vous êtes là en train de dire, OK, Jeff, tu m'as convaincu. On est supposé remplir l'esprit. Je comprends. Comment? OK, première chose que je vais vous dire, lire ta Bible. Si tu ne lis pas la Bible, comment est-ce que tu vas entendre Dieu te parler? Cette parole a été donnée à nous pour nous aider à maturer. J'aimerais vous dire que nous vivons dans un monde shortcut. Où on essaie de tout, il y a des raccourcis pour tout. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour faire aller quelque chose plus vite. Mais il n'y a pas une façon de prendre la parole de Dieu à part de soit le lire ou l'écouter. Il y a beaucoup d'applications sur les téléphones. C'était jamais plus facile d'avoir la Bible dans ta poche en tout le temps que maintenant. Si tu veux connaître Dieu dans ta quotidienne, il faut lire la Bible. Deuxièmement, prier. Alors, peut-être tu vas dire, OK, whoa, time out. Tu es en train de me donner un checklist baptiste, là. Lire ma Bible, prier. Non, je suis simplement en train de vous dire que si vous voulez avoir une relation avec quelqu'un, il faut prier. Il faut le parler. Et dans le cas de Dieu, c'est prier. Imagine-toi dans une souper de mariage. Tu as ton petit assiette de bouffe et tu es en train de manger et le marié arrive et tu dis, oh, mais c'est un beau mariage. C'est une belle robe. Et vous allez habiter où après la lune de miel? Et la fille te dit, oh, mais moi, je vais continuer à rester dans le sous-sol chez mes parents et mon mari a pris un appartement de l'autre côté de la ville. Tu vas dire, what? Comment est-ce que vous allez se connaître et développer une relation si vous n'habitez pas ensemble? J'aimerais vous dire que vous pouvez connaître Dieu et marcher avec Dieu sans prier, mais ce n'est pas possible. Il faut prendre le temps pour prier. Ça prend du temps. C'est comme ça. Il faut prendre le temps pour prier et parler avec Dieu. Et troisièmement, obéissance radicale. Au fil des années, 37 ans, ministère de jeunesse, on commence notre, cette semaine, on commence notre 38e année du ministère de jeunesse. On a travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Et des jeunes, vont, des fois, ils vont dire, « Mais moi, je ne comprends pas tout dans la Bible. » C'est pas grave, là. Mets en pratique les choses que tu comprends. Inquiète-toi pas pour les choses que tu ne comprends pas. Si jamais il y a quelque chose que tu as besoin de mieux comprendre, Dieu va te révéler ça. Obéissance radicale. Mettre en pratique tout ce que je comprends à la lettre. Dieu dit ça, je vais faire ça. Est-ce que tu étais déjà dans un pays en famine? Moi, non. Moi, je n'étais jamais dans un... Comme tu vois, je suis loin de famine. Là. Ceux qui sont dans famine, j'imagine bien que lorsqu'ils ont la nourriture, ils la gardent proche pour eux-mêmes. Non, c'est pour moi. C'est pour moi et ma famille. C'est pas pour vous. C'est pour nous. Contrairement, êtes-vous arrivé déjà ici au Québec chez quelqu'un au lieu de souper, peut-être par accident, peut-être par exprès, tu es arrivé au lieu de souper, tu cognes, la personne dit, Ron, oh, excuse-moi, vous soupez. Non, non, Ron, on a beaucoup, on a beaucoup. Tu dis, oh, OK, oui, OK, super. Tu manges avec. Ceux qui ont beaucoup donnent généreusement. Ceux qui n'ont pas beaucoup gardent pour eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrose pas les gens autour de nous? Parce que souvent, chez les chrétiens, notre verre est plein comme ça. Notre verre, j'ai 12 centimètres de l'Esprit Saint, j'ai pas d'extra te donner. Désolé, je dois juste... Moi, je vis avec juste un peu d'humidité au fond de ma verre, de ma vie chrétienne. Je ne peux pas déborder sur vous. Désolé. Mais ceux qui sont pleins peuvent facilement déborder sur les autres. On peut éclabousser les autres lorsqu'on est plein. Et j'ai mis ici, on déborde lorsqu'on boit de Jésus d'une façon quotidienne. C'est comme un ruisseau. C'est, je l'ai trouvé tellement intéressant, le deuxième chant qu'on a chanté. Avec, tu nous remplissais. J'étais comme, wow, c'est vraiment le Seigneur qui a organisé la prédication avec les chants. Parce qu'en ayant continuellement rempli, on peut continuellement donner. Parce que la source est Jésus et la source est infinie. J'ai dit ici, j'ai mis ici, qui nous sommes en tant que personne est plus important que n'importe quoi d'autre qu'on peut faire ou on peut dire. Et lorsqu'on déborde sur les autres, toutes les autres choses suivront naturellement. Prions. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour cette église. Je prie ta bénédiction sur chacun de nous. Je te demande de nous aider de boire de toi et arroser tout le monde autour de nous. Au nom de Jésus, amen. Dernièrement, on va finir avec ça. On est à la recherche des personnes qui vont prier pour nous, avec nous. Sur la table en arrière, une petite feuille, mets ton adresse courriel et on va te rajouter à la liste d'envoi. On ne va pas te demander l'argent ou rien comme ça. On ne fait pas ça. On va vous demander de prier pour nous. On va vous envoyer des requêtes de prière, des nouvelles pour que vous puissiez se joindre à nous parce que nous savons que lorsque le peuple de Dieu prie, Dieu travaille. Et on aimera avoir plus en plus de partenaires prières qui participent avec nous. Alors, merci pour votre accueil. On va être là à la fin. On va jaser aussi longtemps que vous voulez jaser. On est toujours les dernières personnes à partir. OK, amen, merci.